Chapitre 16. Campagne de Syrie. Pour prévenir les hostilités des pachas de la Syrie et poursuivre quelques mamelouks, Bonaparte entra le 22 février dans cette partie du monde à laquelle le combat d'Aboukir l'avait légué. Napoléon trompait. C'était un de ses rêves de puissance qu'il poursuivait. Plus heureux que Cambyse, il franchit sans rencontrer le vent du midi. Il campe parmi des tombeaux. Il escalade El Arish et triomphe à Gaza. « Nous étions, écrit-il le 6, aux colonnes placées sur les limites de l'Afrique et de l'Asie. Nous couchâmes le soir en Asie. Cet homme immense marchait à la conquête du monde. C'était un conquérant pour des climats qui n'étaient pas à conquérir. Jaffa est emporté. Après l'assaut, une partie de la garnison, estimée par Bonaparte à 1200 hommes et portée par d'autres à 2 ou 3 000, se rendit et fut reçue à Mercy. 2 jours après, Bonaparte ordonna de la passer par les armes. Walter Scott et Sir Robert Wilson ont raconté ces massacres. Bonaparte, à Sainte-Hélène, n'a fait aucune difficulté de les avouer à Lord Ebrington et au docteur O'Meara. Mais il en rejetait l'odieux sur la position dans laquelle il se trouvait. Il ne pouvait nourrir les prisonniers. Il ne les pouvait renvoyer en Égypte sous escorte. Leur laisser la liberté sur parole ? Ils ne comprendraient même pas ce point d'honneur et ces procédés européens. Wellington, dans ma place, disait-il, aurait agi comme moi. Napoléon se décida, dit M. Thiers, à une mesure terrible et qui est le seul acte cruel de sa vie. Il fit passer, au fil de l'épée, les prisonniers qui lui restaient. L'armée consomma avec obéissance, mais avec une espèce d'effroi, l'exécution qui lui était commandée. Le seul acte cruel de sa vie, c'est, beaucoup affirmé, après les massacres de Toulon, après tant de campagnes où Napoléon compta à néant la vie des hommes. Il est glorieux pour la France que nos soldats aient protesté par une espèce d'effroi contre la cruauté de leur général. Mais les massacres de Jaffa sauvaient-ils notre armée? Bonaparte ne vit-il pas avec quelle facilité une poignée de Français renversa les forces du pacha de Damas? À Aboukir, ne détruisit-il pas 13 000 osmanlis avec quelques chevaux? Kléber, plus tard, ne fit-il pas disparaître le grand vizir et ses myriades de mahométans? S'il s'agissait de droit, quel droit les Français avaient-ils eu d'envahir l'Égypte? Pourquoi égorgeaient-ils des hommes qui n'usaient que du droit de la défense? Enfin, Bonaparte ne pouvait invoquer les lois de la guerre, puisque les prisonniers de la garnison de Jaffa avaient mis bas les armes et que leur soumission avait été acceptée. Le fait que le conquérant s'efforçait de justifier le gênait. Ce fait est passé sous silence ou indiqué vaguement dans les dépêches officielles et dans les récits des hommes attachés à Bonaparte. Je me dispenserai, dit le docteur Larrey, de parler des suites horribles qu'entraîne ordinairement l'assaut d'une place. J'ai été le triste témoin de celui de Jaffa. Bourrienne s'écrie. Cette scène atroce me fait encore frémir lorsque j'y pense, comme le jour où je la vis, et j'aimerais mieux qu'il me fût possible de l'oublier que d'être forcé de la décrire. Tout ce qu'on peut se figurer d'affreux dans un jour de sang serait encore au-dessous de la réalité. Bonaparte écrit au directoire que « Jaffa fut livré au pillage et à toutes les horreurs de la guerre qui jamais ne lui a paru si hideuses. Ces horreurs, qui les avait commandées ?» Berthier, compagnon de Napoléon en Égypte, étant au quartier général d'Anse en Allemagne, adressa le 5 mai 1809 au major général de l'armée autrichienne une dépêche foudroyante contre une prétendue fusillade exécutée dans le Tyrol, où commandait Chastelet. Il a laissé égorger, entre parenthèses Chastelet, 700 prisonniers français et 18 à 1900 bavarois, crime inouï dans l'histoire des nations, qui eût pu exciter une terrible représaille, si Sa Majesté ne regardait les prisonniers comme placés sous sa foi et sous son honneur. Bonaparte dit ici tout ce que l'on peut dire contre l'exécution des prisonniers de Jaffa. Que lui importait de telles contradictions ? Il connaissait la vérité et il s'en jouait. Il en faisait le même usage que du mensonge. Il n'appréciait que le résultat, le moyen lui était égal. Le nombre des prisonniers l'embarrassait, il les tua. Il y a toujours eu deux Bonaparte, l'un grand, l'autre petit. Lorsque vous croyez entrer en sûreté dans la vie de Napoléon, il rend cette vie affreuse. Millot, dans la première édition de ses mémoires, 1804, se tait sur les massacres. On ne les lit que dans l'édition de 1814. Cette édition a presque disparu. J'ai eu peine à la retrouver. Pour affirmer une aussi douloureuse vérité, il ne me fallait rien moins que le récit d'un témoin oculaire. Autre est de savoir en gros l'existence d'une chose, autre d'en connaître les particularités. La vérité morale d'une action ne se décèle que dans les détails de cette action. Les voici d'après Millot. Le 20 Ventose, 10 mars, dans l'après-midi, les prisonniers de Jaffa furent mis en mouvement au milieu d'un vaste bataillon carré formé par les troupes du général Bon. Un bruit sourd du sort qu'on leur préparait me détermina, ainsi que beaucoup d'autres personnes, à monter à cheval et à suivre cette colonne silencieuse de victimes, pour m'assurer si ce qu'on m'avait dit était fondé. Les Turcs, marchant pêle-mêle, prévoyaient déjà leur destinée. Ils ne versaient point de larmes, ils ne poussaient point de cris, ils étaient résignés. Quelques-uns, blessés, ne pouvant suivre aussi promptement, furent tués en route, à coups de baïonnette. Quelques autres circulaient dans la foule et semblaient donner des avis salutaires dans un danger aussi imminent. Peut-être les plus hardis, pensaient-ils, qu'il ne leur était pas impossible d'enfoncer le bataillon qui les enveloppait. Peut-être espéraient-ils qu'en se disséminant dans les champs qu'ils traversaient, un certain nombre échapperait à la mort. Toutes les mesures avaient été prises à cet égard, et les Turcs ne firent aucune tentative d'évasion. Arrivés enfin dans les dunes de sable au sud-ouest de Jaffa, on les arrêta auprès d'une mare d'eau jaunâtre. Alors l'officier qui commandait les troupes fit diviser la masse par petites portions, et ces pelotons, conduits sur plusieurs points différents, y furent fusillés. Cette horrible opération demanda beaucoup de temps, malgré le nombre des troupes réservées pour ce funeste sacrifice, et qui, je dois le déclarer, ne se prêtait qu'avec une extrême répugnance au ministère abominable qu'on exigeait de leurs bras victorieux. Il y avait près de la mare d'eau un groupe de prisonniers, parmi lesquels étaient quelques vieux chefs au regard noble et assuré, et un jeune homme dont le moral était fort ébranlé. Dans un âge si tendre, il devait se croire innocent, et ce sentiment le porta à une action qui parut choquer ceux qui l'entouraient. Il se précipita dans les jambes du cheval que montait le chef des troupes françaises. Il embrassa les genoux de cet officier en implorant la grâce de la vie. Il s'écriait « De quoi suis-je coupable? Quel mal ai-je fait ?» Les larmes qu'il versait, ses cris touchants, furent inutiles. Ils ne purent changer le fatal arrêt prononcé sur son sort. À l'exception de ce jeune homme, tous les autres Turcs firent avec calme leur ablution dans cette eau stagnante dont j'ai parlé. Puis, se prenant la main, après l'avoir porté sur le cœur et à la bouche, ainsi que se saluent les musulmans, ils donnaient et recevaient un éternel adieu. Leurs âmes courageuses paraissaient défier la mort. On voyait dans leur tranquillité la confiance que leur inspirait, à ces derniers moments, leur religion et l'espérance d'un avenir heureux. Ils semblaient se dire « Je quitte ce monde pour aller jouir auprès de Mahomet d'un bonheur durable. » Ainsi, ce bien-être après la vie, que lui promet le Coran, soutenait le musulman vaincu, mais fier de son malheur. Je vis un vieillard respectable, dont le ton et les manières annonçaient un grade supérieur. Je le vis faire creuser froidement devant lui, dans le sable mouvant, un trou assez profond pour s'y enterrer vivant. Sans doute, il ne voulut mourir que par la main des siens. Il s'étendit sur le dos dans cette tombe tutélaire et douloureuse, et ses camarades, en adressant à Dieu des prières suppliantes, le couvrirent bientôt de sable et trépignèrent ensuite sur la terre qui lui servait de linceul, probablement dans l'idée d'avancer le terme de ses souffrances. Ce spectacle qui fit palpiter mon cœur et que je peins encore trop faiblement eut lieu pendant l'exécution des pelotons répartis dans les dunes. Enfin, il ne restait plus de tous les prisonniers que ceux placés près de la mare d'eau. Nos soldats avaient épuisé leurs cartouches. Il fallut frapper ceux-ci à la baïonnette et à l'arme blanche. Je ne pus soutenir cette horrible vue. Je m'enfuis, pâle et prêt à défaillir. Quelques officiers me rapportèrent le soir que ces infortunés, cédant à ce mouvement irrésistible de la nature, qui nous fait éviter le trépas, même quand nous n'avons plus l'espérance de lui échapper, s'élançaient les uns dessus les autres et recevaient dans les membres les coups dirigés au cœur et qui devaient sur-le-champ terminer leur triste vie. Il se forma, puisqu'il faut le dire, une pyramide effroyable de morts et de mourants dégouttant le sang, et il fallut retirer les corps déjà expirés pour achever les malheureux qui, à l'abri de ce rempart affreux, épouvantable, n'avait point encore été frappé. Ce tableau est exact et fidèle, et le souvenir fait trembler ma main qui n'en rend point toute l'horreur. La vie de Napoléon, opposée à de telles pages, explique l'éloignement que l'on ressent pour lui. Conduit par les religieux du couvent de Jaffa, dans les sables, au sud-ouest de la ville, j'ai fait le tour de la tombe. Jadis monceau de cadavres, aujourd'hui pyramide d'ossements. Je me suis promené dans des vergers de grenadiers, chargés de pommes vermeilles, tandis qu'autour de moi la première hirondelle arrivée d'Europe rasait la terre funèbre. Le ciel punit la violation des droits de l'humanité. Il envoya la peste. Elle ne fit pas d'abord de grands ravages. Bourrienne relève l'erreur des historiens qui place la scène des pestiférés de Jaffa au premier passage des Français dans cette ville. Elle n'eut lieu qu'à leur retour de Saint-Jean d'Acre. Plusieurs personnes de notre armée m'avaient déjà assuré que cette scène était pure fable. Bourrienne confirme ces renseignements. Les lits des pestiférés, raconte le secrétaire de Napoléon, étaient à droite en entrant dans la première salle. Je marchais à côté du général, j'affirme ne l'avoir pas vu toucher à un pestiféré. Il traversa rapidement les salles, frappant légèrement le revers jaune de sa botte avec la cravache qu'il tenait à la main. Il répétait en marchant à grands pas ces paroles. « Il faut que je retourne en Égypte pour la préserver des ennemis qui vont arriver. » Dans le rapport officiel du major général, 29 mai, il n'y est pas dit un mot des pestiférés, de la visite à l'hôpital et de l'attouchement des pestiférés. Que devient le beau tableau de Gros? Il reste comme un chef-d'œuvre de l'art. Saint-Louis, moins favorisé par la peinture, fut plus héroïque dans l'action. Le bon roi, doux et débonnaire, quand il vit ce, eut grand pitié à son cœur, et fit tantôt toutes autres choses laissées, et faire fosse émit les champs, et dédié là un cimetière par le légat. Le roi Louis aida de ses propres mains à enterrer les morts. À peine trouvait-on aucun qui voulût mettre la main. Le roi venait tous les matins de 5 jours qu'on mit à enterrer les morts, après sa messe, au lieu, et disait à sa gente, « Allons ensevelir les martyrs qui ont souffert pour notre Seigneur, et ne soyez pas lassés de ce faire, car ils ont plus souffert que nous n'avons. » Là étaient présents, en habit de cérémonie, l'archevêque de Tyr et l'évêque de Damiette, et leur clergé, qui disait le service des morts. Mais ils étouppaient leur nez pour la puanteur. Mais Onc ne fut vu au bon roi Louis étouper le sien, tant le faisait fermement et dévotement. Bonaparte met le siège devant Saint-Jean d'Acre. On verse le sang à Cana, qui fut témoin de la guérison du fils du centenier par le Christ. À Nazareth, qui cacha la pacifique enfance du Sauveur. Au Tabor, qui vit la transfiguration, et où Pierre dit « Maître, nous sommes bien sur cette montagne. Dressons-y 3 tentes. » Ce fut du mont Tabor que fut expédié l'ordre du jour à toutes les troupes qui occupaient Sours, l'ancienne Tyr, Césarée, les cataractes du Nil, les bouches pélusiaques, Alexandrie et les rives de la mer Rouge, qui portent les ruines de Colsoum et d'Arsinoé. Bonaparte était charmé de ces noms qu'il se plaisait à réunir. Dans ce lieu des miracles, Kléber et Murat renouvelèrent les faits d'armes de Tancrède et de Renaud. Ils dispersèrent les populations de la Syrie, s'emparèrent du camp du pacha de Damas, jetèrent un regard sur le Jourdain, sur la mer de Galilée, et prirent possession de Scaphète, l'ancienne Béthulie. Bonaparte remarque que les habitants montrent l'endroit où Judith tua Holopherne. Les enfants arabes des montagnes de la Judée m'ont appris des traditions plus certaines lorsqu'ils me criaient en français « En avant, marche !» Ces mêmes déserts, ai-je dit dans les martyrs, ont vu marcher les armées de Sésostris, de Cambyse, d'Alexandre, de César. Siècles à venir, vous y ramènerez des armées non moins nombreuses, des guerriers non moins célèbres. Après m'être guidé sur les traces encore récentes de Bonaparte en Orient, je suis ramené quand il n'est plus à repasser sur sa course. Saint-Jean était défendu par Djésar le boucher. Bonaparte lui avait écrit de Jaffa, le 9 mars 1799. « Depuis mon entrée en Égypte, je vous ai fait connaître plusieurs fois que mon intention n'était pas de vous faire la guerre, que mon seul but était de chasser les Mamelouks. Je marcherai sous peu de jours sur Saint-Jean d'Acre. Mais quelle raison ai-je d'ôter quelques années de vie à un vieillard que je ne connais pas? Que font quelques lieues de plus à côté des pays que j'ai conquis? » Djésar ne se laissa pas prendre à ses caresses. Le vieux tigre se défait de l'ongle de son jeune confrère. Il était environné de domestiques mutilés de sa propre main. On raconte que Djésar est un Bosnien cruel, disait-il de lui-même. Récit du général Sebastiani. Un homme de rien. Mais, en attendant, je n'ai besoin de personne et l'on me recherche. Je suis né pauvre. Mon père ne m'a légué que son courage. Je me suis élevé à force de travaux. Mais cela ne me donne pas d'orgueil, car tout finit, et aujourd'hui peut-être, ou demain, Djésar finira, non pas qu'il soit vieux, comme le disent ses ennemis, mais parce que Dieu l'a ainsi ordonné. Le roi de France, qui était puissant, a péri. Nabuchodonosor a été tué par un moucheron, etc. Au bout de 61 jours de tranchées, Napoléon fut obligé de lever le siège de Saint-Jean d'Acre. Nos soldats, sortant de leur hutte de terre, couraient après les boulets de l'ennemi que nos canons lui renvoyaient. Nos troupes, ayant à se défendre contre la ville et contre les vaisseaux embossés des Anglais, livrèrent 9 assauts et montèrent 5 fois sur les remparts. Du temps des croisés, il y avait à Saint-Jean d'Acre, au rapport de Rigord, une tour appelée Maudite. Cette tour avait peut-être été remplacée par la grosse tour, qui fit échouer l'attaque de Bonaparte. Nos soldats sautèrent dans les rues où l'on se battit corps à corps pendant la nuit. Le général Lannes fut blessé à la tête, Colbert à la cuisse. Parmi les morts, on compta Boyer, Venoux et le général Bon, exécuteur du massacre des prisonniers de Jaffa. Kléber disait de ce siège « Les Turcs se défendent comme des chrétiens, les Français attaquent comme des Turcs. » Critique d'un soldat qui n'aimait pas Napoléon. Bonaparte s'en alla proclamant qu'il avait rasé le palais de Djezzar et bombardé la ville de manière qu'il n'y restait pas pierre sur pierre, que Djezzar s'était retiré avec ses gens dans un des forts de la côte, qu'il était grièvement blessé et que les frégates aux ordres de Napoléon s'étaient emparées de 30 bâtiments syriens chargés de troupes. Sir Sidney Smith et Filippo, officiers d'artillerie émigrés, assistait Djezzar. L'un avait été prisonnier au temple, l'autre compagnon d'études de Napoléon. Autrefois périt devant Saint-Jean d'Acre la fleur de la chevalerie sous Philippe Auguste. Mon compatriote, Guillaume le Breton, chante ainsi en vers latin du XIIe siècle. Dans tout le royaume, à peine trouvait-on un lieu dans lequel quelqu'un n'eût quelque sujet de pleurer. Tant était grand le désastre qui précipita nos héros dans la tombe lorsqu'ils furent frappés par la mort dans la ville d'Ascaron, Saint-Jean d'Acre. Bonaparte était un grand magicien, mais il n'avait pas le pouvoir de transformer le général Bon, tué à Ptolémée, en Raoul, sire de Coucy, qui, expirant au pied des remparts de cette ville, écrivait à la dame de Fayel « Mort pour Loyal le Mans, amé son ami. » Napoléon n'aurait pas été bien reçu à rejeter la chanson des Cantéors, lui qui se nourrissait à Saint-Jean d'Acre de bien d'autres fables. Dans les derniers jours de sa vie, sous un ciel que nous ne voyons pas, il s'est plu à divulguer ce qu'il méditait en Syrie, si toutefois il n'a pas inventé des projets d'après des faits accomplis, et ne s'est pas amusé à bâtir, avec un passé réel, l'avenir fabuleux qu'il voulait que l'on crût. Maître de Ptolémaïs, nous raconte les révélations de Sainte-Hélène, Napoléon fondait en Orient un empire, et la France était laissée à d'autres destinées. Il volait à Damas, à Alep, sur l'Euphrate. Les chrétiens de la Syrie, ceux même de l'Arménie, l'eussent renforcé. Les populations allaient être ébranlées. Les débris des Mamelouks, les Arabes du désert de l'Égypte, les Druzes du Liban, les Moutoualis ou Mahométans opprimés de la secte d'Ali, pouvaient se réunir à l'armée maîtresse de la Syrie, et la commotion se communiquait à toute l'Arabie. Les provinces de l'Empire ottoman, qui parlent arabe, appelaient un grand changement et attendaient un homme avec des chances heureuses. Il pouvait se trouver sur l'Euphrate, au milieu de l'été, avec 100 000 auxiliaires et une réserve de 25 000 Français qu'il eût successivement fait venir d'Égypte. Il aurait atteint Constantinople et les Indes et changé la face du monde. Avant de se retirer de Saint-Jean d'Acre, l'armée française avait touché Tyr. Désertée des flottes de Salomon et de la phalange du Macédonien, Tyr ne gardait plus que la solitude imperturbable d'Isaïe. Solitude dans laquelle les chiens muets refusent d'aboyer. Le siège de Saint-Jean d'Acre fut levé le 20 mai 1799. Arrivé à Jaffa le 27, Bonaparte fut obligé de continuer sa retraite. Il y avait environ 30 à 40 pestiférés, nombre que Napoléon réduit à 7, qu'on ne pouvait transporter. Ne voulant pas les laisser derrière lui, dans la crainte, disait-il, de les exposer à la cruauté des Turcs, il proposa à Déjeunette de leur administrer une forte dose d'opium. Déjeunette lui fit la réponse si connue, mon métier est de guérir les hommes, non de les tuer. » On ne leur administra point d'opium, dit M. Thiers, et ce fait servit à propager une calomnie indigne et aujourd'hui détruite. Est-ce une calomnie? Est-elle détruite? C'est ce que je ne saurais affirmer aussi péremptoirement que le brillant historien. Son raisonnement équivaut à ceci. Bonaparte n'a point empoisonné les pestiférés par la raison qu'il proposait de les empoisonner. Déjeunette, d'une pauvre famille de gentilshommes bretons, est encore en vénération parmi les Arabes de la Syrie. Et Wilson dit que son nom ne devrait être écrit qu'en lettres d'or. Bourrienne écrit 10 pages entières pour soutenir l'empoisonnement contre ceux qui le nient. « Je ne puis pas dire que j'ai vu donner la potion, » dit-il, « je mentirais, mais je sais bien positivement que la décision a été prise et a dû être prise après délibération, que l'ordre en a été donné et que les pestiférés sont morts. » « Quoi ? Ce dont s'entretenait, dès le lendemain du départ de Jaffa, tout le quartier général comme d'une chose positive, ce dont nous parlions comme d'un épouvantable malheur, serait devenu une atroce invention pour nuire à la réputation d'un héros. » Napoléon n'abandonna jamais une de ses fautes. Comme un père tendre, il préfère celui de ses enfants qui est le plus disgracié. L'armée française fut moins indulgente que les historiens admiratifs. Elle croyait à la mesure de l'empoisonnement, non seulement contre une poignée de malades, mais contre plusieurs centaines d'hommes. Robert Wilson, dans son Histoire de l'expédition des Anglais en Égypte, avance le premier, la grande accusation. Il affirme qu'elle était appuyée de l'opinion des officiers français prisonniers des Anglais en Syrie. Bonaparte donna le démenti à Wilson, qui répliqua n'avoir dit que la vérité. Wilson est le même major-général qui fut commissaire de la Grande-Bretagne auprès de l'armée russe pendant la retraite de Moscou. Il eut le bonheur de contribuer depuis à l'évasion de M. de Lavalette. Il leva une légion contre la légitimité lors de la guerre d'Espagne en 1823, défendit Bilbao et renvoya à M. de Villèle son beau-frère, M. Desbassins, contraint de relâcher dans le port. Le récit de Robert Wilson a donc, sous divers points de vue, un grand poids. La plupart des relations sont uniformes sur le fait de l'empoisonnement. M. de Las Cases admet que le bruit de l'empoisonnement était cru dans l'armée. Bonaparte, devenu plus sincère dans sa captivité, a dit à M. Warren et au docteur O'Meara que, dans le cas où se trouvaient les pestiférés, il aurait cherché pour lui-même, dans l'opium, l'oubli de ses maux, et qu'il aurait fait administrer le poison à son propre fils. Walter Scott rapporte tout ce qui s'est débité à ce sujet. Mais il rejette la version du grand nombre des malades condamnés, soutenant qu'un empoisonnement ne pourrait s'exécuter avec succès sur une multitude. Il ajoute que Sir Sidney rencontra dans l'hôpital de Jaffa les 7 Français mentionnés par Bonaparte. Walter Scott est de la plus grande impartialité. Il défend Napoléon comme il aurait défendu Alexandre contre les reproches dont on peut charger sa mémoire. Entre parenthèses, c'est pour ainsi dire la première fois que je parle de Walter Scott comme historien de Napoléon, et je le citerai encore. C'est donc ici que je dois dire qu'on s'est trompé prodigieusement en accusant l'illustre Écossais de prévention contre un grand homme. La vie de Napoléon, Life of Napoleon, n'occupe pas moins de 11 volumes. Elle n'a pas eu le succès qu'on en pouvait espérer parce que, excepté dans 2 ou 3 endroits, l'imagination de l'auteur de tant d'ouvrages si brillants lui a failli. Il est ébloui par les succès fabuleux qu'il décrit, et comme écrasé par le merveilleux de la gloire. La vie entière manque ainsi des grandes vues que les Anglais ouvrent rarement dans l'histoire parce qu'ils ne conçoivent pas l'histoire comme nous. Du reste, cette vie est exacte, sauf quelques erreurs de chronologie. Toute la partie qui a rapport à la détention de Bonaparte à Sainte-Hélène est excellente. Les Anglais étaient mieux placés que nous pour connaître cette partie. En rencontrant une vie si prodigieuse, le romancier a été vaincu par la vérité. La raison domine dans le travail de Walter Scott. Il est en garde contre lui-même. La modération de ses jugements est si grande qu'elle dégénère en apologie. Le narrateur pousse la débonnaireté jusqu'à recevoir des excuses sophistiquées par Napoléon et qui ne sont pas admissibles. Il est évident que ceux qui parlent de l'ouvrage de Walter Scott comme d'un livre écrit sous l'influence des préjugés nationaux anglais et dans un intérêt privé ne l'ont jamais lu. On ne lit plus en France. Loin de rien exagérer contre Bonaparte, l'auteur est effrayé par l'opinion. Ses concessions sont innombrables. Il capitule partout. S'il aventure d'abord un jugement ferme, il le reprend ensuite par des considérations subséquentes qu'il croit devoir à l'impartialité. Il n'ose tenir tête à son héros, ni le regarder en face. Malgré cette sorte de pusillanimité devant l'infatuation populaire, Walter Scott a perdu le mérite de ses condescendances pour avoir, dans son avertissement, fait entendre cette simple vérité. Si le système général de Napoléon, dit-il, a reposé sur la violence et la fraude, ce n'est ni la grandeur de ses talents, ni le succès de ses entreprises qui doit étouffer la voix ou éblouir les yeux de celui qui s'aventure à devenir son historien. If the general system of Napoleon has rested upon force or fraud, it is neither the greatness of his talents nor the success of his undertakings that oft to stifle the voice or dazzle the eyes of him who adventures to be his historian. L'humble audace qui essuie, comme Madeleine, la poussière des pieds du dieu avec sa chevelure, passe aujourd'hui pour un sacrilège. Fin de la parenthèse. La retraite, sous le soleil de la Syrie, fut marquée par des malheurs qui rappellent les misères de nos soldats dans la retraite de Moscou, au milieu des frimas. Il y avait encore, dit Millot, dans les cabanes, sur les bords de la mer, quelques malheureux qui attendaient qu'on les transportât. Parmi eux, un soldat était attaqué de la peste, et dans le délire qui accompagne quelquefois l'agonie, il supposa sans doute, en voyant l'armée marcher au bruit du tambour, qu'il allait être abandonné. Son imagination lui fit entrevoir l'étendue de son malheur s'il tombait entre les mains des Arabes. On peut supposer que ce fut cette crainte qui le mit dans une si grande agitation et qui lui suggéra l'idée de suivre les troupes. Il prit son havresac, sur lequel reposait sa tête, et le plaçant sur ses épaules, il fit l'effort de se lever. Le venin de l'affreuse épidémie qui coulait dans ses veines lui ôtait ses forces. Et au bout de 3 pas, il retomba sur le sable, en donnant de la tête. Cette chute augmenta sa frayeur, et, après avoir passé quelques moments à regarder avec des yeux égarés la queue des colonnes en marche, il se leva une seconde fois et ne fut pas plus heureux. À sa 3e tentative, il succomba, et, tombant plus près de la mer, il resta à la place que les destins lui avaient choisie pour tombeau. La vue de ce soldat était épouvantable. Le désordre qui régnait dans ses discours insignifiants, sa figure qui peignait la douleur, ses yeux ouverts et fixes, ses habits en lambeaux, offraient tout ce que la mort a de plus hideux. L'œil attaché sur les troupes en marche, il n'avait point eu l'idée, toute simple, pour quelqu'un de sang-froid, de tourner la tête d'un autre côté. Il aurait aperçu la division Kléber et celle de cavalerie qui quittèrent Tantoura après les autres, et l'espoir de se sauver aurait peut-être conservé ses jours. Quand nos soldats, devenus impassibles, voyaient un de leurs infortunés camarades les suivre comme un homme dans l'ivresse, trébuchant, tombant, se relevant et retombant pour toujours, ils disaient « Il a pris ses quartiers ». Une page de Bourrienne achèvera le tableau. Une soif dévorante, disent les mémoires, le manque total d'eau, une chaleur excessive, une marche fatigante dans des dunes brûlantes, démoralisèrent les hommes et firent succéder à tous les sentiments généreux le plus cruel égoïsme, la plus affligeante indifférence. J'ai vu jeter de dessus les brancards des officiers amputés, dont le transport était ordonné, et qui avaient même remis de l'argent pour récompense de la fatigue. J'ai vu abandonner dans les orges des amputés, des blessés, des pestiférés, ou soupçonnés seulement de l'être. La marche était éclairée par des torches allumées pour incendier les petites villes, les bourgades, les villages, les hameaux, les riches moissons dont la terre était couverte. Le pays était tout en feu. Ceux qui avaient l'ordre de présider à ces désastres semblaient, en répandant partout la désolation, vouloir venger leurs revers et trouver un soulagement à leurs souffrances. Nous n'étions entourés que de mourants, de pillards et d'incendiaires. Des mourants jetés sur les bords du chemin disaient d'une voix faible « Je ne suis pas pestiféré, je ne suis que blessé ». Et pour convaincre les passants, on envoyait rouvrir leurs blessures ou s'en faire une nouvelle. Personne n'y croyait. On disait « Son affaire est faite ». On passait, on se tâtait et tout était oublié. Le soleil, dans tout son éclat sous ce beau ciel, était obscurci par la fumée de nos continuels incendies. Nous avions la mer à notre droite, à notre gauche et derrière nous, le désert que nous faisions, devant nous, les privations et les souffrances qui nous attendaient. Chapitre 17. Retour en Égypte. Conquête de la Haute-Égypte. Il est parti, il est arrivé, il a dissipé tous les orages. Son retour les a fait repasser dans le désert. Ainsi chantait et se louait le triomphateur repoussé en rentrant au Caire. Il emportait le monde dans des hymnes. Pendant son absence, Desaix avait achevé de soumettre la Haute-Égypte. On rencontre, en remontant le Nil, des débris à qui le langage de Bossuet laisse toute la grandeur et l'augmente. On a, dit l'auteur de l'Histoire universelle, découvert dans le Saïd des temples et des palais presque encore entiers, où ses colonnes et ses statues sont innombrables. On y admire surtout un palais dont les restes semblent n'avoir subsisté que pour effacer la gloire de tous les plus grands ouvrages. Quatre allées à perte de vue et bornées de part et d'autre par des sphinx d'une matière aussi rare que leur grandeur est remarquable servent d'avenue à quatre portiques dont la hauteur étonne les yeux. Quelle magnificence et quelle étendue! Encore ceux qui nous ont décrit ce prodigieux édifice n'ont-ils pas eu le temps d'en faire le tour, et ne sont pas même assurés d'en avoir vu la moitié. Mais tout ce qu'ils y ont vu était surprenant. Une salle, qui apparemment faisait le milieu de ce superbe palais, était soutenue de 6 vins, entre parenthèses 6 rangées de 20 colonnes, était soutenue de 6 vins colonnes de 6 brassées de grosseur, grandes à proportion et entremêlées d'obélisques que tant de siècles n'ont pu abattre. Les couleurs même, c'est-à-dire ce qui éprouve le plus tôt le pouvoir du temps, se soutiennent encore parmi les ruines de cet admirable édifice et y conservent leur vivacité. Tant l'Égypte savait imprimer le caractère d'immortalité à tous ses ouvrages. maintenant que le nom du roi Louis XIV pénètre aux parties du monde les plus inconnues, ne serait-ce pas un digne objet de cette noble curiosité de découvrir les beautés que la Thébaïde renferme dans ses déserts? Quelle beauté ne trouverait-on pas si on pouvait aborder la ville royale, puisque si loin d'elle on découvre des choses si merveilleuses? La puissance romaine, désespérant d'égaler les Égyptiens, a cru faire assez pour sa grandeur d'emprunter les monuments de leur roi. Napoléon se chargea d'exécuter les conseils que Bossuet donnait à Louis XIV. « Thèbes, dit M. Denon, qui suivait l'expédition de Desaix, cette cité reléguée que l'imagination n'entrevoit plus qu'à travers l'obscurité des temps, était encore un fantôme si gigantesque qu'à son aspect, l'armée s'arrêta d'elle-même et battit des mains. Dans le complaisant enthousiasme des soldats, je trouvai des genoux pour me servir de table, des corps pour me donner de l'ombre. Parvenus aux cataractes du Nil, nos soldats, toujours combattant contre les baies et éprouvant des fatigues incroyables, s'amusaient à établir dans le village de Sienne des boutiques de tailleurs, d'orfèvres, de barbiers, de traiteurs à prix fixe. Sous une allée d'arbres alignés, ils plantèrent une colonne militaire avec l'inscription « Route de Paris ». En redescendant le Nil, l'armée eut souvent affaire aux Mécains. On mettait le feu au retranchement des Arabes. Il manquait d'eau. Ils éteignaient le feu avec les pieds et les mains. Ils l'étouffaient avec leur corps. Noirs et nus, dit encore M. Denon, on les voyait courir à travers les flammes. C'était l'image des diables dans l'enfer. Je ne les regardais point sans un sentiment d'horreur et d'admiration. Il y avait des moments de silence dans lesquels une voix se faisait entendre. On lui répondait par des hymnes sacrés et des cris de combat. Ces Arabes chantaient et dansaient comme les soldats et les moines espagnols dans Saragosse embrasée. Les Russes brûlèrent Moscou. La sorte de sublime démence qui agitait Bonaparte, il la communiquait à ses victimes. Chapitre 18. Bataille d'Aboukir. Billets et lettres de Napoléon. Il repasse en France. 18. Brumaire. Napoléon, rentré au Caire, écrivait au général Dugoy. « Vous ferez, citoyen général, trancher la tête à Abdallah Aga, ancien gouverneur de Jaffa. D'après ce que m'ont dit les habitants de Syrie, c'est un monstre dont il faut délivrer la terre. Vous ferez fusiller les nommés Hassan, Joseph, Ibrahim, Saleh, Mahomet, Bekir, Hadj Saleh, Mustapha, Mahomet, tous mamelouks. » Il renouvelle souvent ses ordres contre des Égyptiens qui ont mal parlé des Français. Tel était le cas que Bonaparte faisait des lois. Le droit même de la guerre permettait-il de sacrifier tant de vies sur ce simple ordre d'un chef? Vous ferez fusiller? Au sultan du Darfour, il écrit « Je désire que vous me fassiez passer 2000 esclaves mâles ayant plus de 16 ans. » Il aimait les esclaves. Une flotte ottomane de 100 voiles mouille à Aboukir et débarque une armée. Murat, appuyé du général Lannes, la jette dans la mer. Bonaparte instruit de ce succès le directoire. Le rivage où l'année dernière les courants ont porté les cadavres anglais et français est aujourd'hui couvert de ceux de nos ennemis. On se fatigue à marcher dans ces monceaux de victoire comme dans les sables étincelants de ces déserts. Le billet suivant frappe tristement l'esprit. « J'ai été peu satisfait, citoyen général, de toutes vos opérations pendant le mouvement qui vient d'avoir lieu. Vous avez reçu l'ordre de vous porter au Caire, et vous n'en avez rien fait. Tous les événements qui peuvent survenir ne doivent jamais empêcher un militaire d'obéir. Et le talent à la guerre, consiste à lever les difficultés qui peuvent rendre difficile une opération et non pas à la faire manquer. Je vous dis ceci pour l'avenir. Ingrat d'avance, cette rude instruction de Bonaparte est adressée à Desaix, qui offrait à la tête des braves dans la Haute-Égypte autant d'exemples d'humanité que de courage, marchant au pas de son cheval, causant de ruines, regrettant sa patrie, sauvant des femmes et des enfants, aimé des populations qu'il appelait le sultan juste, enfin à ce Desaix, tué depuis à Marengo, dans la charge par laquelle le premier consul devint le maître de l'Europe. Le caractère de l'homme perce dans le billet de Napoléon. Domination et jalousie. On pressent celui que toute renommée afflige, le prédestinateur auquel est donnée la parole qui reste et qui contraint. Mais sans cet esprit de commandement, Bonaparte aurait-il pu tout abattre devant lui ? Prêt à quitter le sol antique où l'homme d'autrefois s'écriait en expirant « Puissance qui dispensait la vie aux hommes, recevez-moi et accordez-moi une demeure parmi les dieux immortels », Bonaparte ne songe qu'à son avenir de la terre. Il fait avertir, par la mer Rouge, les gouverneurs de l'île de France et de l'île de Bourbon. Il envoie ses salutations au sultan du Maroc et au bey de Tripoli. Il leur fait part de ses affectueuses sollicitudes pour les caravanes et les pèlerins de la Mecque. Napoléon cherche en même temps à détourner le grand vizir de l'invasion que la porte médite, assurant qu'il est prêt à tout vaincre, comme à entrer dans toute négociation. Une chose ferait peu d'honneur à notre caractère si notre imagination et notre amour de nouveauté n'étaient plus coupables que notre équité nationale. Les Français s'extasient sur l'expédition d'Égypte, et ils ne remarquent pas qu'elle blessait autant la probité que le droit politique. En pleine paix avec la plus vieille alliée de la France, nous l'attaquons, nous lui ravissons sa féconde province du Nil, sans déclaration de guerre, comme des Algériens qui, dans une de leurs algarades, se seraient emparés de Marseille et de la Provence. Quand la porte arme pour sa défense légitime, fière de notre illustre guet-apens, nous lui demandons ce qu'elle a et pourquoi elle se fâche. Nous lui déclarons que nous n'avons pris les armes que pour faire la police chez elle, que pour la débarrasser de ces brigands de Mamelouks qui tenaient son pacha prisonnier. Bonaparte mande au grand vizir : Comment votre excellence ne sentirait-elle pas qu'il n'y a pas un Français de tué qui ne soit un appui de moins pour la porte ? Quant à moi, je tiendrai pour le plus beau jour de ma vie celui où je pourrai contribuer à faire terminer une guerre à la fois impolitique et sans objet. Bonaparte voulait s'en aller. La guerre alors était sans objet et impolitique. L'ancienne monarchie fut du reste aussi coupable que la République. Les archives des affaires étrangères conservent plusieurs plans de colonies françaises à établir en Égypte. Leibniz, lui-même, avait conseillé la colonie égyptienne à Louis XIV. Les Anglais n'estiment que la politique positive, celle des intérêts. La fidélité au traité et les scrupules moraux leur semblent puérils. Enfin, l'heure était sonnée. Arrêté aux frontières orientales de l'Asie, Bonaparte va saisir d'abord le sceptre de l'Europe, pour chercher ensuite au nord, par un autre chemin, les portes de l'Himalaya et les splendeurs de Cachemire. Sa dernière lettre à Kléber, datée d'Alexandrie, 22 août 1799, est de toute excellence et réunit la raison, l'expérience et l'autorité. La fin de cette lettre s'élève à un pathétique sérieux et pénétrant. Vous trouverez ci-joint, citoyen général, un ordre pour prendre le commandement en chef de l'armée. La crainte que la croisière anglaise ne reparaisse d'un moment à l'autre me fait précipiter mon voyage de 2 ou 3 jours. J'emmène avec moi les généraux Berthier, André Aussy, Murat, Lannes et Marmont, et les citoyens Monge et Berthollet. Vous trouverez 6 juin les papiers anglais et de Francfort jusqu'au 10 juin. Vous y verrez que nous avons perdu l'Italie, que Mantoue, Turin et Torton sont bloqués. J'ai lieu d'espérer que la première tiendra jusqu'à la fin de novembre. J'ai l'espérance, si la fortune me sourit, d'arriver en Europe avant le commencement d'octobre. Suivent des instructions particulières. Vous savez apprécier aussi bien que moi combien la possession de l'Égypte est importante à la France. Cet empire turc, qui menace ruine de tous côtés, s'écroule aujourd'hui, et l'évacuation de l'Égypte serait un malheur d'autant plus grand que nous verrions de nos jours cette belle province passer en d'autres mains européennes. Les nouvelles des succès ou des revers qu'aura la République doivent aussi entrer puissamment dans vos calculs. Vous connaissez, citoyen général, quelle est ma manière de voir sur la politique intérieure de l'Égypte. Quelque chose que vous fassiez, les chrétiens seront toujours nos amis. Il faut les empêcher d'être trop insolents, afin que les Turcs n'aient pas contre nous le même fanatisme que contre les chrétiens, ce qui nous les rendrait irréconciliables. J'avais déjà demandé plusieurs fois une troupe de comédiens. Je prendrai un soin particulier de vous en envoyer. Cet article est très important pour l'armée et pour commencer à changer les mœurs du pays. La place importante que vous allez occuper en chef va vous mettre à même enfin de déployer les talents que la nature vous a donnés. L'intérêt de ce qui se passera ici est vif et les résultats en seront immenses pour le commerce, pour la civilisation. Ce sera l'époque d'où dateront de grandes révolutions. Accoutumé à voir la récompense des peines et des travaux de la vie dans l'opinion de la postérité, j'abandonne avec le plus grand regret l'Égypte. L'intérêt de la patrie, sa gloire, l'obéissance, les événements extraordinaires qui viennent de se passer, me décident seul à passer au milieu des escadres ennemies pour me rendre en Europe. Je serai d'esprit et de cœur avec vous. Vos succès me seront aussi chers que ceux où je me trouverai en personne, et je regarderai comme mal employé tous les jours de ma vie où je ne ferai pas quelque chose pour l'armée, dont je vous laisse le commandement, et pour consolider le magnifique établissement dont les fondements viennent d'être jetés. L'armée que je vous confie est toute composée de mes enfants. J'ai eu dans tous les temps, même dans les plus grandes peines, des marques de leur attachement. Entretenez-les dans ces sentiments. Vous le devez à l'estime et à l'amitié toute particulière que j'ai pour vous et à l'attachement vrai que je leur porte. Bonaparte. Jamais le guerrier n'a retrouvé d'accent pareil. C'est Napoléon qui finit. L'empereur qui suivra sera sans doute plus étonnant encore, mais combien aussi plus haïssable. Sa voix n'aura plus le son des jeunes années, le temps, le despotisme, l'ivresse de la prospérité l'auront altéré. Bonaparte aurait été bien à plaindre s'il eût été contraint, en vertu de l'ancienne loi égyptienne, à tenir 3 jours embrassés les enfants qu'il avait fait mourir. Il avait songé pour les soldats qu'il laissait exposés à l'ardeur du soleil à ces distractions que le capitaine Paris employa 32 ans après pour ses matelots dans les nuits glacées du pôle. Il envoie le testament de l'Égypte à son brave successeur qui sera bientôt assassiné, et il se dérobe furtivement, comme César se sauva à la nage dans le port d'Alexandrie. Cette reine que le poète appelait un fatal prodige, Cléopâtre, ne l'attendait pas. Il allait au rendez-vous secret que lui avait donné le sort, autre puissance infidèle. Après s'être plongé dans l'Orient, source des renommées merveilleuses, il nous revient, sans toutefois être monté à Jérusalem, de même qu'il n'entra jamais dans Rome. Le Juif qui criait « Malheur, malheur !» rôda autour de la ville sainte, sans pénétrer dans ses habitacles éternels. Un poète s'échappant d'Alexandrie, monte le dernier sur la frégate aventureuse. Tout imprégné des miracles de la Judée, ayant appris la tombe aux pyramides, Bonaparte franchit les mers, insouciant de leurs vaisseaux et de leurs abîmes. Tout était guéable pour ce géant, événements et flots. Napoléon prend la route que j'ai suivie. Il longe l'Afrique par des vents contraires. Au bout de 21 jours, il double le Cap Bon. Il gagne les côtes de Sardaigne et, forcé de relâcher à Ajaccio, promène ses regards sur les lieux de sa naissance, reçoit quelque argent du cardinal Fesch et se rembarque. Il découvre une flotte anglaise qui ne le poursuit pas. Le 8 octobre, il entre dans la rade de Fréjus, non loin de ce golfe Juan où il se devait manifester une terrible et dernière fois. Il aborde à terre, part, arrive à Lyon, prend la route du Bourbonnais, entre à Paris le 16 octobre. Tout paraît disposé contre lui, Barras, Seyès, Bernadotte, Moreau, et tous ses opposants le servent comme par miracle. La conspiration sourdit. Le gouvernement est transféré à Saint-Cloud. Bonaparte veut haranguer le conseil des anciens. Il se trouble, il balbutie les mots de frères d'armes, de volcans, de victoire, de César. On le traite de Cromwell, de tyran, d'hypocrite. Il veut accuser et on l'accuse. Il se dit accompagné du dieu de la guerre et du dieu de la fortune. Il se retire en s'écriant « Qui m'aime, me suive !» On demande sa mise en accusation. Lucien, président du Conseil des 500, donne sa démission pour ne pas mettre Napoléon hors la loi. Il tire son épée et jure de percer le sein de son frère si jamais il essaie de porter atteinte à la liberté. On parlait de faire fusiller le soldat déserteur, l'infracteur des lois sanitaires, le porteur de la peste, et on le couronne. Murat fait sauter par les fenêtres les représentants. Le 18 Brumaire s'accomplit, le gouvernement consulaire naît et la liberté meurt. Alors s'opère dans le monde un changement absolu. L'homme du dernier siècle descend de la scène, l'homme du nouveau siècle y monte. Washington, au bout de ses prodiges, cède la place à Bonaparte qui recommence les siens. Le 9 novembre, le président des États-Unis ferme l'année 1799. Le premier consul de la République française ouvre l'année 1800. Un grand destin commence, un grand destin s'achève. Corneille. C'est sur ces événements immenses qu'est écrite cette première partie de mes mémoires, que vous avez vue, ainsi qu'un texte moderne, profanant d'antiques manuscrits. Je comptais mes abattements et mes obscurités à Londres, sur les élévations et l'éclat de Napoléon. Le bruit de ses pas se mêlait au silence des miens dans mes promenades solitaires. Son nom me poursuivait jusque dans les réduits où se rencontraient les tristes indigences de mes compagnons d'infortune et les joyeuses détresses où, comme aurait dit notre vieille langue, les misères hilareuses de Pelletier. Napoléon était de mon âge. Partis tous les deux du sein de l'armée, il avait gagné 100 batailles que je languissais encore dans l'ombre de ses émigrations qui furent le piédestal de sa fortune. Rester si loin derrière lui, le pouvais-je jamais rejoindre? Et néanmoins, quand il dictait des lois aux monarques, quand il les écrasait de ses armées et faisait jaillir leur sang sous ses pieds, quand, le drapeau à la main, il traversait les ponts d'Arcole et de Lodi, quand il triomphait aux pyramides, aurais-je donné, pour toutes ces victoires, une seule de ces heures oubliées qui s'écoulaient en Angleterre dans une petite ville inconnue? Oh, magie de la jeunesse !